Il est 10h à Paris, 8h à Lomé et en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur le Togo et la très large victoire du parti présidentiel aux législatives. Selon la commission électorale, l'UNIR rafle 95% des sièges de députés. Mais d'abord le journal. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Jour de vote au Tchad, les électeurs appelés aux urnes pour la présidentielle qui clôt 3 années de transition. Transition en place depuis la mort d'Idriss Déby, les opérations ont commencé, elles se poursuivent jusqu'à 16h temps universel. La visite d'État de Xi Jinping en France, 2 jours de déplacement pour le président chinois de retour en Europe. 5 ans après sa dernière visite, l'Ukraine et les contentieux économiques seront au cœur des discussions. Au sommaire également, Israël dit avoir commencé une évacuation partielle et temporaire de Rafah. 100 000 personnes sont concernées alors que le pays prépare une offensive d'ampleur contre le Hamas. Plus d'un million de Gazaouis ont trouvé refuge à Rafah. Et puis la catastrophe pour le Brésil, le sud du pays submergé par les eaux à cause de pluies torrentielles. Une très mauvaise nouvelle pour cette région agricole et industrielle, clé de la puissance brésilienne. Les premiers bulletins de vote dans les urnes au Tchad, plus de 8 millions d'électeurs appelés à se prononcer aujourd'hui pour la présidentielle, ce scrutin qui doit refermer le chapitre de la transition 3 ans après la mort d'Idriss Déby. Ils sont 10 à prétendre au siège de chef de l'État, dont Mahamat Idriss Déby, le président de la transition, et son premier ministre succès Masra. N'Djamena Carole Valade.
Porté au sommet de l'État par un groupe de militaires à la mort de son père il y a 3 ans, tandis que des colonnes de rebelles menaçaient la capitale, Mahamat Déby cherche aujourd'hui à légitimer son pouvoir par l'onction des urnes avec un argument phare, la stabilité. Son principal adversaire, le Premier ministre Succé Masra, promet lui la rupture et le changement. Il appelle ses militants à surveiller le dépouillement du scrutin, tandis que l'Agence nationale de gestion des élections laisse planer la menace de poursuites judiciaires au cas où la prise de photos dans les bureaux de vote provoquerait des troubles à l'ordre public. Un nombre significatif d'observateurs n'ont pas obtenu leur accréditation. Leur dossier ne remplissait pas les critères, affirme l'ange. Un climat de suspicion règne donc au Tchad, climat qui suscite l'inquiétude des ONG internationales. Aucun dérapage ne sera toléré, nous dit un haut gradé, tandis qu'un important dispositif sécuritaire a été déployé pour cette journée de vote. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Au Togo, la large victoire du parti au pouvoir aux législatives de la semaine dernière suscite l'indignation de l'opposition. 95% des sièges à l'Assemblée. Des chiffres ridicules selon l'opposant Jean-Pierre Fabre. Le ministre de la fonction publique appelle l'opposition à travailler avec le pouvoir pour la mise en place de la récente réforme controversée de la Constitution. Vous parlez justement du Togo ce matin avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Xi Jinping sera reçu dans 1 heure par Emmanuel Macron. Le président chinois est en France pour une visite d'État de 2 jours. Avec au programme des discussions l'Ukraine et la position de la Chine vis-à-vis de la Russie, sans oublier les épineux sujets commerciaux et les nombreux désaccords entre l'Europe et la Chine, les accusations de dumping de part et d'autre concernant les véhicules électriques chinois ou encore les eaux de vie françaises, si bien que la rencontre est très attendue par les producteurs français de cognac. Ils espèrent la suspension d'une enquête chinoise. À Pékin, Stéphane Lagarde.
Les volumes et la taille du marché n'ont rien à voir et c'est bien pourtant un donnant-donnant voiture électrique contre eau de vie que semblent avoir engagé les autorités chinoises. La plainte déposée par des producteurs d'alcool en Chine et la procédure d'enquête qu'elle a déclenchée est considérée par beaucoup comme une mesure de représailles à l'enquête européenne sur les subventions chinoises à l'automobile. Boyu travaille depuis 16 ans pour une maison de cognac française. Nous l'avons joint à Foshan, non loin de Canton, dans le sud de la Chine.
On est sous pression et j'espère que lors de la rencontre de ces deux présidents à Paris, ils peuvent aborder ce problème pour nous, les mesures d'anti-dumping. Ce sera une catastrophe.
1/4 des bouteilles de cognac sont expédiées en Chine, second marché après les États-Unis, et 98% des revenus de la filière dépendent de l'export. Avec des prix déjà élevés, si les taxes chinoises tombent, seuls les clients chinois les plus fortunés pourront continuer à s'acheter le spiritueux, affirme Stanley, producteur, importateur et distributeur de cognac à Shenzhen, en face de Hong Kong.
Un cognac, c'est pas pour tout le monde. Un cognac, ça coûte très cher. On va avoir 10 à 20% de consommation de moins.
10 à 20% de chute de la consommation, la hausse des prix risque de faire fuir les clients. Bohu.
Si les consommateurs s'établissent leur nouvelle habitude de boire du whisky ou du baijiu, pour nous, c'est fini.
Selon la profession, la filière cognac représente 72 500 emplois en France pour 3 350 millions d'euros d'exportation. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Et à noter que Xi Jinping rencontrera dans la journée Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a déjà fait savoir qu'elle exigera une concurrence équitable et non faussée avec la Chine. Autre réaction, celle de Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes, demande à Emmanuel Macron d'être ferme vis-à-vis du président chinois. Il ne faut pas se taire sur les crimes commis en Chine, écrit-il dans le journal Le Monde. Et il reproche à l'Élysée de dérouler le tapis rouge de manière obséquieuse à Xi Jinping. Les élections européennes, justement, c'est dans un mois, une campagne que va lancer aujourd'hui la CDU, le Parti chrétien démocrate allemand, qui se retrouve à Berlin pour 3 jours de congrès. Aujourd'hui, dans l'opposition, le parti de l'ancienne chancelière Angela Merkel a le scrutin de juin en ligne de mire, mais aussi les élections nationales de l'an prochain. À Berlin, correspondance de Pascal Thibault.
La CDU est créditée d'environ 30% dans les sondages, un score qui correspond plus ou moins à celui cumulé des trois partis de l'impopulaire coalition d'Olaf Scholz. La situation des chrétiens-démocrates est donc confortable à un peu plus d'un mois des élections européennes. Le président du parti, Friedrich Merz, qui a eu besoin de 3 tentatives pour conquérir la CDU, est parvenu à pacifier les divisions internes et s'est imposé comme leader de l'opposition. Sa réélection cet après-midi constituera une formalité, seul son score sera scruté à la loupe. D'anciens supporters d'Angela Merkel lui reproche toujours un cours trop à droite. Le nouveau programme fondamental du parti, le dernier daté de 2007, marque aussi une césure avec l'ère Merkel. Si la CDU est en meilleure posture qu'il y a 3 ans après une défaite historique, il lui faudra encore prouver qu'elle peut reprendre le pouvoir. Les électeurs sont moins convaincus aujourd'hui qu'en 2021 des capacités du parti à changer les choses. Son président Friedrich Merz polarise plus qu'Angela Merkel, qui était capable de séduire des électeurs au-delà des rangs traditionnels de la CDU. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Au moins 6 morts et 35 blessés en Russie, dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Kiev a mené une attaque de drones explosifs, selon le gouverneur local. Au Proche-Orient, Israël exige l'évacuation partielle de Rafah, la partie est de la ville où sont réfugiés plus de 1 million de Gazaouis. Israël appelle ces personnes environ 100 000 à rejoindre des zones humanitaires alors que son armée prépare toujours son offensive d'ampleur contre cette ville. Une déclaration alors que les négociations sur un projet de trêve à Gaza ont échoué hier au Caire. Une délégation du Hamas doit retourner demain dans la capitale égyptienne. Le chef du renseignement américain est lui attendu à Doha, au Qatar, dans la journée. Le sud du Brésil, durement touché par les intempéries, au moins 78 morts après des pluies torrentielles dans l'état du Rio Grande do Sul. La capitale régionale Porto Alegre est sous l'eau. Plus de 100 personnes sont également portées disparues. C'est un désastre humanitaire, mais aussi économique, tant cette région est cruciale pour le Brésil. Martin Bernard.
Le Rio Grande do Sul est l'un des états les plus prospères du Brésil. C'est d'abord une puissance agricole. Il est le premier producteur de riz du pays et une partie de la production a été inondée. La récolte de soja, en revanche, peut être effectuée avant le déluge de ces derniers jours, mais les producteurs de volailles et de viande craignent les conséquences de ces intempéries. Les prix vont augmenter. Cette région proche de l'Argentine est également le siège de plusieurs grands groupes industriels. Certains ont décidé de suspendre leur production. C'est le cas du fabricant d'acier Gerdau et du constructeur d'autobus Marco Polo ou encore du fabricant de remorques Randon. Mais ce sont surtout les transports qui ont été désorganisés. Un barrage a cédé près de la région viticole de Bento Gonçalves. Certains ponts et des routes se sont littéralement effondrés, ce qui complique non seulement l'acheminement des secours, mais aussi des vivres. Les clients se ruent sur les supermarchés pour faire des provisions, mais certains produits ne sont plus disponibles. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Et puis un mot de sport pour terminer avec hier en tennis, la victoire d'Andrei Rublev au Masters 1000 de Madrid en 3-7 face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Le Russe grimpe à la 6e place du classement ATP à 2 semaines de l'ouverture du tournoi de Roland-Garros. Et en football, un match aux enjeux européens ce soir en Ligue 1. Lille reçoit Lyon. Les nordistes visent la troisième place du championnat alors que les Lyonnais restent sur une série de 5 victoires en 7 matchs. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Juan Gomez pour Appel sur l'actualité.
C'était le journal d'Alexis Guilleux. Très bonne journée à tous. Restez avec nous sur RFI dans 30 secondes. Vous avez la parole. À tout de suite.